nous sommes déjà arrivés à notre avant-dernier chapitre de cette seconde lettre de Paul aux croyants de Corinthe. Et ce que nous vous demandions surtout en lisant ce chapitre, c'était de chercher à découvrir quel est le vrai secret de la force spirituelle pour un homme et pour un serviteur de Dieu. Nous voulons maintenant nous recueillir encore un instant dans la prière. Ô notre Dieu, que ces derniers moments que nous passons ensemble soient tout imprégnés de ta grâce et que nous recevions en ce moment la force dont nous avons besoin les uns des autres pour vivre aujourd'hui en te faisant confiance pour demain, toi qui seras pour nous le même. Que tu deviennes réellement, d'heure en heure, notre force. Et que nous puissions réaliser ce que dit ce cantique, compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Compter sur lui, tout est là. Que ce Fils unique, Jésus, nous soit révélé à nous aujourd'hui, comme tu le révélas un jour à ce Saul de Tarse, transformant sa vie et faisant de lui un homme en Christ, un homme de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous durant notre existence terrestre. En Jésus. Amen. Mes amis, après avoir montré, comme nous l'avons vu hier, ce que l'apôtre Paul a souffert pour Jésus-Christ, nous le voyons souligné dans le chapitre 12 qui nous occupe ce matin, ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Hier, c'était plutôt tout ce qu'il a dû souffrir pour le Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons ce que le Christ a fait pour lui. Et je dirais qu'à l'époque actuelle où l'on aime des renseignements précis et des données biographiques, cette deuxième lettre écrite aux croyants de Corinthe, qu'il appelle des saints dans son premier chapitre, répond à notre attente et fournit nombre de détails sur la vie de cet apôtre, de cet envoyé du Seigneur. Des détails que nous ne trouvons pas quand nous lisons simplement le livre des Actes. C'est pourquoi cet épître peut intéresser le psychologue. On pourrait dire aussi le psychanalyste, comme bien sûr le théologien et l'historien, mais aussi intéresser les simples lecteurs de la parole, ce que nous sommes dans ce camp et ce que nous espérons être de plus en plus hors du camp, dans nos demeures et malgré nos activités diverses. Nous avons découvert, je l'espère, et nous discernerons de mieux en mieux, en relisant cet épître, quels sont les caractères d'un vrai chrétien, d'un homme qui s'est converti à Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Parce que pour bien comprendre cette vie de l'apôtre Paul, il nous faut connaître ses antécédents. Il nous faut connaître ce qu'il était avant d'avoir eu cette révélation intérieure de ce que était le Christ auquel il put consacrer sa vie. Avant, il avait consacré sa vie à la religion de ses pères. Il en était même un ardent défenseur, faisant partie de la secte la plus exacte qui suivait les traditions des pères, la secte des pharisiens. Et, voulant défendre sa religion qu'il croyait menacée par les disciples de ce Jésus, eh bien, il avait cru plaire à Dieu en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour détruire les premiers témoins de ce Jésus que lui croyait mort et que les disciples prétendaient ressusciter. Mais pour Saul de Tarse, ses disciples n'étaient autres que des imposteurs. Alors, il fallait les détruire pour maintenir la pureté de la religion juive. De sorte que si vous voulez comprendre vraiment cet épître, vous êtes obligé de lire quand même le livre des Actes, et vous trouvez alors là, au chapitre 9, ce qu'a été sa conversion. Mais il faut déjà lire au chapitre 7e, l'attitude que ce Saul de Tarse eut lors de la lapidation d'Étienne, qui fut le premier martyr chrétien. Il était heureux, en quelque sorte, de cette lapidation. Il y consentait, il gardait même les vêtements de ceux qui lui lançaient des pierres. Et non seulement content de cette mort, il voulait encore d'autres exemples pour arrêter le mouvement de cette secte dans ses débuts. Et c'est à ce moment-là, comme vous le savez presque tous, qu'il fut arrêté sur le chemin de Damas et qu'il eut cette révélation que Jésus-Christ était réellement ressuscité, qu'il était vivant, qu'il était dans le ciel et qu'il l'avait choisi, lui, le persécuteur, le blasphémateur, l'outrageux, l'homme violent, pour en faire un autre homme qui serait désormais dans sa main, non plus pour servir une religion, mais pour servir une personne, le Fils de Dieu, celui qui était l'image de Dieu et qui avait été manifesté dans ce monde. Après avoir envoyé sur la terre des prophètes, lisons-nous, Dieu avait envoyé en dernier lieu son Fils. Mais je voudrais souligner que dans l'évangile de Marc, l'évangéliste nous dit que le Père l'a envoyé en dernier. C'est le dernier mot de Dieu à l'humanité. Jésus est le dernier mot de Dieu à l'humanité. Après Jésus, il ne peut plus y avoir que le jugement. Ce que nous disions hier soir, le temps de la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui de Dieu qu'est le temps favorable, débouche et débouchera sur le jour de la colère de Dieu, sur le jour de la condamnation. Jésus est le dernier espoir pour les pécheurs. Et c'est ce que nous devons bien comprendre. Alors, ce Saul de Tarse n'a pas résisté à cette vision céleste et il s'est tourné vers le Seigneur et a laissé le Seigneur remplir son cœur. Et ce que je demande à Dieu, c'est que dans ce camp, vous ayez pu laisser remplir votre cœur. Et dès le moment où vous acceptez Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de faire des actes extraordinaires et des bonnes œuvres pour que X années après votre mort, on vous déclare un saint et qu'on vous canonise. Dès l'instant où vous appartenez à Jésus-Christ, vous devenez un saint. Et pour Dieu, vous êtes un saint, c'est-à-dire un homme mis à part, c'est ce que ça veut dire. Séparé dans ce monde, qui ne suit plus les voies du monde, mais qui appartient au Seigneur. C'est ça, être un saint. C'est pourquoi on a dit une fois à quelqu'un qui s'étonnait que dans une église, l'architecte qui devait la construire n'avait pas prévu des niches pour mettre les saints. Et on lui a fait cette réflexion, mais pourquoi n'avez-vous pas prévu des niches pour les saints? Et il a répondu, mais ici les saints, on les met sur les bancs. Ce sont ceux qui se rassemblent, qui sont sanctifiés, c'est-à-dire qui sont mis à part. Alors, vous êtes un saint dès l'instant où vous vous êtes laissé pris par le Seigneur, possédé par le Seigneur, vous lui appartenez. Vous êtes le témoin de Jésus. Vous n'êtes plus chrétien par tradition, parce qu'on vous a baptisé, enfant ou adulte, mais vous l'êtes devenu par une révélation intérieure, une conviction qui vous a été donnée au sujet de Jésus-Christ, et vous l'avez reçu. Et alors, comme Dieu donne ce qu'il ordonne, nous avons vu dès le premier chapitre que si nous avons pris position pour Jésus-Christ, nous pouvons compter sur toutes les promesses de Dieu. Mais je vous le demande un peu, est-ce que vous les connaissez, les promesses de Dieu? Pour connaître les promesses de Dieu, il faut lire le livre où se trouvent ces promesses. Et nous avons vu que Dieu déclare que toutes les promesses qu'il a faites sont vraiment oui en lui et qu'elles s'accompliront. Mais que nous pouvons, nous, expérimenter la réalité de ces promesses en nous adressant à Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ était sur la terre, il disait que tout ce que nous lui demanderions à ce Père en son nom, nous serait accordé. Bien, je supplie le Seigneur que ce camp vous convainque que toutes les promesses que vous pouvez rencontrer dans la parole, ayant leur réalisation en Jésus-Christ, ce qui compte pour vous, c'est d'être réellement en Christ. Et alors, si vous êtes en Christ, ce que nous avons vu, c'est que lui-même fait de nous, étant en nous, un parfum de sa présence dans ce monde. Ce n'est pas du Christian Dior, ce n'est pas du Chanel, du Rocha ou du Roger Gallet, mais c'est la bonne odeur du Christ. Un parfum qui se répand et qui n'est pas du patchouli. Alors, incarnant le message du Seigneur, l'ayant reçu, la vie du Seigneur, s'imprimant en nous, et nous devenons une lettre vivante. Oui, où Jésus imprime lui-même ses caractères. Non plus comme ils étaient autrefois sur des tables de pierre, les tables de la loi, comme au temps de Moïse, mais sur les tables de chair de notre cœur. Et ce que je voulais montrer hier soir aussi, c'est que nos cœurs sont vraiment un livre. Qu'est-il écrit dans le livre de votre vie? Nos vies doivent être une lettre, et une lettre qui est écrite par le Christ et qui manifeste la volonté de Dieu dans notre existence. Le Seigneur peut faire de vous sa lettre si vous le laissez graver ses pensées dans le livre de votre vie. Et alors, quand l'Esprit de Dieu intervient ainsi dans le croyant, il en fait, avons-nous vu, l'image de Dieu. C'était le but de Dieu quand il a créé Adam. Mais Adam s'est détourné de Dieu et est devenu non plus l'image de Dieu, mais plutôt l'image du tentateur, l'image de Satan, de l'adversaire de Dieu. Alors Dieu a revêtu notre humanité et il est venu en Christ pour que nous puissions contempler son image dans cet homme, Jésus, afin que, ayant devant les yeux non plus un Adam, mais le dernier Adam, Jésus, nous soyons capables, en le regardant, de refléter son image. Et c'est encore le travail du Saint-Esprit qui permettra cette merveilleuse chose en nous. Mais c'est tellement beau cela que tout de suite l'apôtre nous montre que ce trésor que nous recevons en recevant le Christ, on le reçoit dans un vase de terre. Et on le reçoit par la foi. Mais ce que le monde voit, évidemment, eh bien, c'est plutôt d'abord le vase de terre. Il voit notre faiblesse. Ce n'est pas à nous qui sommes, qui avons de la valeur. Le chrétien est au fond sans valeur, il n'a pas plus de valeur qu'un autre, il est un vase de terre. Mais ce qui fait la valeur d'un vrai chrétien, c'est ce que contient le vase. Et ce contenu, c'est le Christ, quand on l'a reçu. Le vase peut être scellé, peut être sans apparence extérieure, mais ce qu'il contient est un trésor. Et cela, Dieu le permet pour que jamais on attribue aux chrétiens ce qui revient à Dieu. Puis, on a vu que ensuite, si réellement nous laissons l'œuvre de Dieu se faire, le Seigneur peut faire de nous des ambassadeurs. Nous donner non plus un témoignage silencieux, comme nous l'avons vu au début, mais un témoignage oral, une mission à accomplir dans ce monde. Il nous confie un service, et ce service, c'est de pouvoir dire aux autres, soyez réconciliés avec Dieu, parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté cette réconciliation. Et étant des hommes qui ont la paix avec Dieu et qui sont réconciliés avec Dieu, nous avons autorité pour dire aux autres, mais vous aussi, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est ce qu'il désire pour vous. Et quand ce message est donné, eh bien, le messager lui-même devient ce que l'on a vu, un véritable temple de Dieu. Tout en étant un vase de terre, il devient le temple de Dieu. Ce n'est plus le vase que l'on regarde, mais la personne qui se trouve dans le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Dieu se révèle en nous comme un Père, et notre relation avec Dieu devient celle d'un Fils avec son Père. Et cette relation, alors, de Fils avec le Père, devient aussi semblable à celle qu'avait Jésus avec son Père. Mais dans ce monde, ce que Jésus a connu, c'est la souffrance. Alors, si nous sommes fils de ce même Père, nous connaîtrons aussi la souffrance. Mais des souffrances qui seront à la gloire de Dieu. Des souffrances qui honoreront le Père. Parce que ce seront les souffrances qu'on rencontre à cause de l'opposition du monde qui ne veut pas suivre la loi du Père. Et étant devenu le temple de Dieu, nous deviendrons finalement aussi les ministres du Seigneur. Il pourra nous confier non seulement une charge d'ambassadeur à l'étranger, mais il fera de nous les ministres de son gouvernement spirituel. Et bien que la grâce de Dieu nous accorde de pouvoir les uns et les autres connaître cette confiance du Seigneur qui veut bien nous confier un ministère. Mais si vous avez un ministère, vous savez que vous rencontrerez des oppositions. Vous rencontrerez même ce qu'on appelle l'opposition qui contestera toujours l'autorité de ceux qui ont été élus. Et c'est ce que nous avons vu donc dans les chapitres 10 et 11 où l'apôtre Paul défend son autorité de ministre du Seigneur. Et au chapitre 12, Paul prend soin de nouveau, verset 1er, d'avertir ses lecteurs qu'il ne leur raconte pas ce que le Christ a fait pour lui, pour se mettre en avant ou pour se glorifier. Il prend soin, comme vous l'avez remarqué, de ne parler de lui au début du chapitre qu'à la troisième personne. Il ne dit pas « Je suis un homme en Christ ». Il ne se met pas en avant. Mais il dit, dans son humilité, « Je connais un homme en Christ. » Parce que si ses adversaires se glorifiaient, lui ne veut pas se glorifier. Cependant, il dit, si je voulais dire quelque chose encore, eh bien, je pourrais en venir à raconter tout ce que Dieu a fait pour nous, pour moi, les révélations particulières qu'il m'a données. Mais il prend soin donc, dans son humilité, de parler à la troisième personne. Il assure qu'il connaît un homme en Christ. J'aime beaucoup cette expression parce que là, on voit que toute la vie du chrétien maintenant se passe comme étant en Christ. Et il nous raconte que cet homme en Christ a été ravi au troisième ciel. Vous vous êtes peut-être demandé ce qu'était ce troisième ciel. Cette expression désigne les cieux des cieux dont parle Salomon dans l'Ancien Testament. Vous demandez quelquefois, mais est-ce que ça vaut la peine de lire aussi l'Ancien Testament? Mais c'est par la lecture de l'Ancien Testament que vous aurez aussi une compréhension de ces vérités extraordinaires qui nous sont précisées dans le Nouveau Testament. Les cieux des cieux dont parle Salomon, c'est le lieu de la présence immédiate de Dieu. C'est là que Jésus se trouve. Un monde invisible que ne connaissent pas les cosmonautes. Et on peut voir une image de ce troisième ciel en nous souvenant, par exemple, du tabernacle que Moïse avait dû dresser dans le désert. Vous savez que le tabernacle comprenait trois parties. Le parvis, où tout le monde pouvait entrer. Puis, le lieu saint, première partie de ce tabernacle, où les sacrificateurs avaient accès. Et puis, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où se trouvait la présence de Dieu. Pendant le temps où Israël a campé au désert, Dieu a voulu se manifester à eux en se mettant à leur niveau et en campant aussi sous une tente. Mais ce lieu très saint, c'était le lieu de sa présence. Et seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois l'an avec le sang des victimes qui était offert pour l'expiation des péchés des Israélites, ce sang qui les préparait à comprendre que le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu leur donnait un substitut dans cet animal qui mourait à la place du pécheur, en attendant le plus excellent sacrifice, qui serait celui de l'agneau de Dieu, du Christ lui-même, qui viendrait donner sa vie et qui répandrait son sang une fois pour toutes, pour que par son sang, la question de nos péchés soit définitivement réglée. Donc, ce lieu très saint, c'était le lieu symboliquement de la présence immédiate de Dieu. Et vous apprenez que quand Jésus-Christ est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré du haut en bas. De sorte que maintenant, l'accès à la présence immédiate de Dieu est ouvert à tous. Mais Paul nous déclare qu'un jour, il y a 14 ans de cela, quand il écrit sa lettre, il raconte que cet homme en Christ, on verra que c'est de lui-même qu'il s'agit, a été ravi, lui, jusque dans cette présence immédiate de Dieu, sans avoir passé par la mort. Et il appelle ce lieu le paradis. Donc, c'est le lieu où sont les âmes invisibles devant le Seigneur et qui attendent dans la paix, dans le repos, le jour de la résurrection. Et qui avons-nous vu entrer au paradis? Un des brigands. Nous l'avons signalé l'autre soir. La promesse de Jésus aux brigands repentants, c'est qu'il aurait une place avec lui le même jour dans le paradis. Paul assure donc qu'il connaît un serviteur de Jésus. Je n'ai pas essayé de préciser à quel moment il a eu cette révélation, mais il nous dit que c'est 14 ans avant qu'il écrive cette lettre, où il a fait cette expérience extraordinaire d'entrer dans le paradis. Mais il ignore si c'était dans son corps ou seulement en esprit que ce privilège fut accordé à cet homme, mais il assure que cette chose a eu lieu et que cet homme, ainsi enlevé, a entendu dans le paradis des choses ineffables, des choses mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme de rapporter et d'exprimer ici-bas. Alors, vous savez, même quand nous pensons qu'un jour nous devrons quitter ce monde, eh bien, c'est pour aller écouter, si nous sommes au Christ, des choses ineffables que nous n'entendons jamais ici-bas et qu'aucun serviteur de Dieu même ne peut nous faire entendre. Tout est devant nous. On entend ici-bas tellement de choses affreuses que l'on comprend pourquoi Paul pouvait dire « Mais si je dois vivre, il en vaut la peine parce que j'ai un ministère à accomplir. Mais si je devais mourir, ce n'est pas une catastrophe. C'est entrer enfin dans ce lieu où l'on entend autre chose que les choses de la terre, les misères de la terre, les conversions de la terre, tout ce qu'on jase ici-bas. On a fini de jaser là-haut. On écoute surtout. Ici-bas, on écoute très peu, mais on jase. Là-haut, on écoute. Et on est tellement captivé par ce que l'on entend que c'est le bonheur parfait. C'est la vraie satisfaction. On est tellement captivé par ce que l'on voit que l'on n'a plus besoin de tourner les regards ailleurs. Le Seigneur et toute sa gloire capte complètement nos regards et les affections de nos cœurs. Parce qu'il est bien dit que pour Dieu, même si le corps est dans la poussière, tous restent vivants. Même avant d'avoir un corps de résurrection. Alors, l'expérience que Paul a faite de ce qu'était le paradis, dont il ne veut pas nous parler parce que c'est une impossibilité, bien, cette expérience pourrait lui permettre de se glorifier, parce que ce n'est pas à tous qu'une telle chose est accordée. Mais il dit, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai vu dans le ciel, je vais vous parler encore de mes souffrances. Il est mieux se glorifier dans ces souffrances qu'il a sur la terre, dans son corps, que de parler de ses révélations personnelles qu'il a eues. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il témoigne que ce qu'il arrête, c'est qu'il craint qu'on ne l'estime au-dessus de ce que l'on voit en lui et de ce qu'on entend dire de lui. Oh, c'est un homme tellement spirituel que lui, il a des révélations. Ben oui, quand Dieu l'a appelé, il lui a fait cette promesse qu'il lui apparaîtrait pour lui révéler ce qu'il avait à communiquer aux âmes et au monde, de sorte qu'il pouvait toujours dire, ce que je vous enseigne, moi je n'ai pas appris par les autres apôtres, je ne l'ai pas appris aux écoles humaines, ce que je vous enseigne, je l'ai reçu du Seigneur. Et il ajoute qu'afin que la grandeur des révélations ne devint point pour lui un sujet de s'élever, Dieu avait permis qu'il éprouvât dans sa chair des tentations vraiment humiliantes, qu'il appelle une écharde. Le mot tentation est le même que le mot épreuve. Mais qu'est-ce que c'est qu'une écharde? C'est un fragment d'un corps étranger dans la chair. Et son épreuve, il la qualifie d'ange de Satan pour le souffleter. Dieu permet que même ses serviteurs, les plus remarquables que nous trouvons dans la parole, aient connu justement cette humiliation dans leur chair. Par exemple, Dans l'Ancien Testament, vous avez Job. Et c'est Satan qui est derrière toutes ces souffrances de Job. Dieu a permis à Satan d'éprouver Job. Ici, on voit qu'il permet à Satan d'éprouver Paul, mais dans quel but ? De le garder humble, de le garder petit à ses propres yeux, pour qu'il ne s'énorgueillisse pas. Donc le grand danger pour nous, c'est l'orgueil. Et ça, il faut le souligner. On l'a déjà dit, et spécialement aussi pour les hommes que Dieu emploie, Satan voudrait les arrêter, et on a souvent fait cette remarque qu'il y avait sur la route des vrais croyants, des témoins du Seigneur, trois pots de bananes. Les femmes, l'argent, l'orgueil. En France, on a défini ça autrement, en pensant à une certaine organisation du temps de Charles de Gaulle. Il y a trois dangers pour les chrétiens. L'OAS, l'orgueil, l'argent, le sexe. Et c'est par ces choses-là que Satan essaye de détruire ou d'arrêter un témoignage chrétien. Alors, même un homme comme l'apôtre Paul, eh bien, il a accepté, il a dû se soumettre à une certaine humiliation et qui se manifestait dans son corps. On n'a jamais su exactement ce que c'était cette humiliation. Il y en a qui ont pensé, d'après ce qu'il écrit aux Galates, que c'était une infirmité des yeux, d'autres, autre chose, peu importe, mais enfin c'était quelque chose qui l'humiliait. Puis on disait que sa présence personnelle était méprisable. Mais, à plusieurs reprises, vous l'avez lu, il a demandé à Dieu d'être délivré de cette infirmité. Trois fois, il a demandé cela à Dieu. Mais Dieu lui a répondu que le secours de la grâce devait lui être suffisant. Cette grâce qu'il avait sauvée, cette grâce qu'il enseignait dans le chemin, c'était encore cette grâce qui serait sa force, qui le maintiendrait debout jusqu'à la fin de son ministère et qui le soutiendrait. Alors il a accepté cette grâce suffisante. Et c'est pourquoi il déclare que maintenant qu'il a compris cela, que l'épreuve qui est la sienne, au fond le garde, eh bien il se plaît dans les faiblesses, dans les peines qu'il éprouve, parce que c'est dans ces moments-là qu'il éprouve le plus fort, le secours de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il peut dire, c'est quand je suis faible, qu'alors je suis fort. Mais quand on se croit fort, c'est là qu'on est tout près de la chute et de l'échec. Quand on se pense en forme, c'est à ce moment-là qu'est le plus grand danger. La puissance de l'apôtre Paul, d'après ce que vous avez lu, c'est donc le Christ habitant en lui. Alors il préfère conserver son écharpe et que le Christ, au fond, ne se retire pas de lui. Parce qu'on a l'exemple de serviteurs qui avaient une grande force spirituelle dans leur début, pensons à Samson par exemple, et qui n'a pas marché dans les voies du Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas retiré immédiatement la force qu'il avait, mais un beau jour, eh bien, Samson a dû réaliser que le Seigneur s'était retiré de lui. Alors Paul a ses exemples et il préfère garder les fardes que tomber dans l'orgueil et voir le Seigneur se retirer. Car quand on a connu la présence du Seigneur en soi, on ne peut plus s'en passer. Alors au verset 11, après tous ces détails, Paul avoue aux Corinthiens qu'il a fait, en leur parlant de cette expérience, une imprudence, qu'il a agi comme un insensé. Mais en même temps, il souligne que les Corinthiens eux-mêmes l'y ont contraint. Et il leur représente que c'était à eux de parler avantageusement de lui. Ils n'auraient pas eu besoin de parler avantageusement de lui si on avait fait taire les adversaires de son ministère. Les Corinthiens étaient fondés à parler en bien de Paul et à défendre son apostolat, puisque par lui-même, ils avaient bien vu que Paul n'était rien. Mais pourtant, s'ils avaient été sauvés, c'était par la prédication de Paul. Alors, ils avaient pu remarquer la grâce qu'avait reçue Paul et son apostolat, et qu'il était bien égal au plus éminent des apôtres. Et il ajoute qu'ils ont vu au milieu de les marques de sa mission, ces marques de Jésus, sa patience, sa douceur, son humilité. Ils ont vu les maux qu'il avait eu à souffrir. Ils ont vu aussi les miracles et les prodiges que Paul avait opérés. Alors au verset 13, il leur demande, mais en quoi ont-ils été inférieurs aux autres églises à Corinthe, sinon en ce qu'il n'a point été à leur charge. Et il les prie de lui pardonner cela. Verset 14, il leur déclare, pour la troisième fois, qu'il désire, qu'il se dispose à aller les voir et que ce sera encore sans leur être à charge. Puis il nous donne les trois raisons. Pourquoi il ne veut pas être à leur charge? Ce n'est pas leur bien qu'ils recherchent, mais eux-mêmes. Deuxièmement, ce n'est pas même dans la nature des choses que les enfants s'enrichissent aux dépens des parents. Et troisièmement, Paul est disposé non seulement à leur donner tout ce qu'ils pourraient avoir, mais à se donner lui-même pour le salut de leur âme, même si en les aimant beaucoup plus, ils devaient être moins aimés. Voilà son attitude. Et il va ensuite au-devant d'une objection qu'il prévoit. On dira peut-être qu'en affectant de ne pas vouloir être à leur charge, il a usé de ruse et qu'il est un homme astucieux qui voudrait les surprendre. Et à cela, versets 17 et 18, il répond en leur demandant si, quand il s'est servi de Tite et de ses deux compagnons pour les envoyer à Corinthe, si ceux-ci ont exigé d'eux quelque chose. Non. Ils ont marché dans le même esprit que Paul, ils ont manifesté le même désintéressement. Alors, après cela, Paul leur demande encore s'ils croient encore que son dessein dans tout ce qu'il vient d'écrire et de se justifier devant eux. Et c'est là qu'il termine en leur disant qu'il leur parle, et vous aurez remarqué que ça revient souvent, devant Dieu et en Christ. Et que s'il a écrit ainsi, c'est uniquement pour contribuer à leur édification et à leur salut. Voilà pourquoi il leur a écrit ces choses. Puis il leur sépare qu'il craint qu'en arrivant chez eux, ils ne les trouvent pas tels qu'ils voudraient, et qu'eux-mêmes ne le trouvent pas aussi tel qu'ils le désireraient. Pourquoi? Ben, ils craignent de trouver chez eux beaucoup de vices spirituels, de vices même charnels, et qu'ils n'aient pas pleuré sur plusieurs qui ne se sont pas repentis des péchés auxquels ils se sont livrés. Il y en a qui avaient pleuré sur les péchés de celui qui vivait dans l'inceste. Je lis ces derniers versets. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Vous voyez tout ce qu'on peut trouver dans une église qui a été enseignée par cet apôtre qui a déjà en quelque sorte visité le ciel, qui leur a donné le meilleur de lui-même, qui leur a apporté le Christ. Oui, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Alors, à l'issue de ce temps, que doit-on penser? Vous avez été averti qu'il n'y avait qu'un chemin pour être libéré, celui de la repentance et de la foi au Seigneur Jésus. Voulons-nous passer par cette repentance? Voulons-nous donner notre cœur au Seigneur? Ou serons-nous seulement de ceux qui ont lu l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, et qui resteront les mêmes? Comme on l'a vu quelquefois, d'une année à l'autre, rien n'a changé. Pour quelle raison? Parce que l'on se contente d'une connaissance doctrinale et qu'on ne laisse pas ces vérités devenir des réalités dans nos vies. Et pourquoi est-ce que ces vérités qu'on a appris à connaître peut-être dans un temps ou dans une retraite ne deviennent pas réalités dans nos vies? Parce que le Christ, en qui tous les exaucements se trouvent, reste encore extérieur à notre vie, a très peu de place en nous, et qu'on ne le laisse pas nous remplir par son esprit. Ce n'est pas notre faiblesse qui est en cause. Car quand un chrétien se sent faible, réalise qu'il n'est rien, eh bien, il met toute sa confiance dans le Seigneur pour avancer d'heure en heure, comptant uniquement sur sa force. Et évidemment,
comme vous l'avez vu, c'est une vie paradoxale. Paul était toujours à l'extrémité. À certains moments, il désespérait même de vivre. Mais il mettait sa confiance dans le Seigneur. Et la grâce lui était donnée suffisamment pour qu'un jour, il puisse arriver à la fin de sa course en pouvant dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. » Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui, dans ce camp Mahanaïm, auront aimé le Seigneur et lui auront donné la première place. Amen. Signez que on a de la force que pour ce que Dieu ordonne. Mais nous, on a toujours peut-être 36 plans pour Dieu. Et on y va avec nos forces. Et on est écrasé. Mais quand c'est vraiment ce que Dieu ordonne, eh bien, il nous donne la force pour aller jusqu'au bout. Eh bien, que le Seigneur nous donne vraiment de comprendre que le secret de la force spirituelle, c'est de rester dans une communion constante avec lui. Et que l'exemple de Paul, qui a voulu suivre le Christ depuis sa conversion, soit aussi pour nous devant nos yeux, pour que nous puissions voir que, au fond, en un homme comme Paul, qui était un homme aux mêmes passions que nous, eh bien, Dieu a réalisé ses promesses à un tel point que ce n'était plus Paul qu'on voyait, mais un homme en Christ. Au fond, quand on voulait chercher Dieu, eh bien, on pouvait le trouver en Paul, puisqu'il était le temple de Dieu. Il rendait Dieu présent là où il était. Ceux qui voulaient rechercher Dieu, non, Dieu n'était pas au fond du ciel, il était là, dans ce croyant qui se nommait Paul. Et puis quand on voulait trouver l'homme, vous n'arrivez pas à le trouver en dehors du Christ. Et c'est ça, je crois, que nous devons saisir. Que le monde, quand il veut trouver l'homme en nous, bien qu'il ne nous trouve pas, mais qu'il trouve le Christ. Au fond, plus nous avançons spirituellement, plus nous comprenons que nous devons être dans le Christ comme dans une sphère. Si on nous attaque devant, c'est pas l'homme qu'on trouve, c'est le Christ. Si on nous attaque par derrière, ce n'est pas l'homme qu'on trouve, c'est le Christ. Si on nous attaque de la droite, c'est le Christ. Si on nous attaque de la gauche, c'est le Christ. Si on nous attaque en piqué d'en haut, c'est le Christ. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main. Je suis ton arrière-garde, dit l'Écriture. Je marche devant toi. Je suis à ta droite et je suis à ta gauche. Parce que justement, Satan voudrait toujours que chez le chrétien, on trouve l'homme. Et l'homme, il n'est jamais beau, même le chrétien. Il a ses réactions. Alors, au lieu de trouver l'homme, il faut que nous soyons cachés en Christ. Notre vie est cachée dans le Christ, mon Dieu. Seigneur, réponds pour moi. Et c'est cela, le vrai témoignage et la vraie sécurité. Qu'on puisse trouver Dieu en nous, mais quand on veut trouver l'homme, qu'on ne rencontre que le Christ. C'est lui qui répond, c'est lui qui aime, c'est lui qui pardonne. C'est lui que le monde approche s'il veut nous approcher. Et il est dit que si nous sommes ainsi en lui, comme dans une sphère, le malin ne peut pas nous toucher. Tandis que le monde entier, il est dit, il est représenté comme gisant dans quel bras ? Dans les bras du malin. Il est dans les bras du mauvais, il est dans les bras du malin, le monde. Mais si nous, nous sommes en Christ, nous sommes dans les bras du Seigneur. Que ta grâce, que ta miséricorde et que ta paix, ô Dieu, Père éternel, Père de miséricorde, Père de grâce, Père saint et juste, nous soit donnée et que nous puissions vivre de cette grâce qui est pleinement suffisante parce qu'en Christ, nous avons reçu tout ce qui concerne la vie et la piété, pour que nous puissions échapper à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Oui, donne-nous d'être dans ce monde comme dans une sphère séparée de toute souillure, mais pouvant avoir un témoignage auprès des âmes. Et que elles aussi aient le désir de trouver en toi ce refuge, cette sécurité, cette paix. C'est la grâce que nous te demandons à la fin de ce camp, afin que réellement nous soyons par ton esprit marqués de ton nom. Des hommes en Christ. Amen.